Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous.
Amen.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 9 et 10. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. Le titre de notre prédication ce matin, c'est notre nouvelle identité en Christ. Notre nouvelle identité en Christ. Notre nouvelle naissance en Christ a entraîné beaucoup de changements dans nos vies. Et cette transformation spirituelle nous réserve des privilèges et des responsabilités dans le service de Dieu. Notre texte de référence en témoigne quelques jouissances que l'apôtre Pierre nous a révélées. Notre nouvelle identité en Christ, nos privilèges et nos responsabilités. Voilà les trois points sur lesquels nous allons passer un temps de réflexion selon la parole de Dieu. Jésus a changé nos vies, notre identité, notre statut, notre destinée en devenant chrétien. Nous n'avons pas la même destination à ceux qui ne le sont pas. Nous n'avons pas la même espérance à ceux qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur et comme Seigneur. C'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples de Jésus-Christ étaient appelés chrétiens, petit Christ, que nous sommes aujourd'hui. C'est une identité noble qu'on ne trouve dans aucun musée et qu'aucun homme ne peut donner, quel que soit son pouvoir, sa puissance et son autorité. Nous sommes chrétiens parce que nous acceptons le salut offert par Dieu, notre Créateur et notre Père. Nous sommes une race élue. Nous sommes à l'époque des élections et nous voyons toutes les pubs, les campagnes pour devenir président. Et Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La race est définie comme l'ensemble des membres d'une grande lignée, les descendants d'un grand peuple. Le concept de race avait entraîné dans le monde l'apparition du racisme par la supériorité biologique. Massacre des populations autochtones en Amérique et en Australie, traite négrière, ségrégation raciale aux États-Unis. Ce même racisme a inspiré le régime d'apartheid qui a permis à la majorité blanche d'Afrique du Sud d'opprimer jusqu'en 1991. Et nous connaissons tous l'histoire. La majorité noire. Aujourd'hui encore, la supériorité des races divise le monde sans faire de commentaires sur ce qui se passe. Alors que nous sommes la race bénie de Dieu. Nous sommes la race élue de Dieu. Nous sommes la race sainte de Dieu, opposée à une race fausse et perverse, indocile, rebelle et méchante. Dans Matthieu 17 et 23, Jésus avait même parlé de race incrédule et perverse, race de vipère. Race de vipère. Dans la famille de Dieu, il y a toujours, c'est étonnant, ce type de race. Parce que dans l'Église, quand l'Église est réunie, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Parmi nous, il y a des agents de Satan. Parmi nous, il y a des agents de mauvais esprit. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Nous sommes un sacerdoce royal. Quand on parle de royaume, quand on parle de roi, on voit prince, on voit reine. C'est une fierté. Nous sommes des prêtres et des dignités du ministère de Dieu. La venue de Jésus-Christ permet que tous les croyants sont devenus prêtres et sacrificateurs. Jean avait fait l'éloge de celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans la nouvelle alliance en Christ, il n'y a plus de fonction sacerdotale confiée à un homme ayant un rôle de médiation entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Seulement Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entendons que il y a des gens qui appellent Marie qui prie Marie pour que leur prière soit arrivée vers Dieu. La Bible nous fait comprendre, encore une fois ce matin, qu'il y a un seul et unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Quand vous priez, il faut prier au nom de Jésus-Christ. Quand vous demandez, il faut demander au nom de Jésus-Christ. Parce que Marie est une pécheresse comme nous. Pourquoi elle avait reçu grâce? C'est parce qu'elle avait péché. Donc on ne peut pas faire rentrer dans nos gorges le mensonge. Marie est une pécheresse comme nous qui avait reçu la grâce de Dieu. Jésus est le seul intermédiaire. Les élus de Dieu constituent ensemble la maison spirituelle de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comme une nation sainte. Voilà pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Et s'il n'y a pas cette sainteté, le Saint-Esprit n'a pas sa place en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il rentre quand? C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Il est entré et il vit en nous. Nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite, puisque celui qui nous a appelés est saint. Les jours de notre conversion, nous avons reçu la sanctification initiale. Et c'est à nous de faire progresser notre sanctification. Paul exhorte l'église de Thessalonique en ces termes. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès dans la sainteté, dans la pureté et dans l'amour. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus et nous bénéficions de cette sanctification le jour que nous avons accepté la grâce de Dieu de devenir son enfant. On dit que tout homme vit pour plaire à quelqu'un, lui-même, sa femme, ses parents, son enfant et son Dieu. Est-ce que vous vivez réellement pour plaire à votre Dieu? Est-ce que nous vivons pour plaire à notre Dieu, le Dieu qui nous a sauvés? Pour mener une vie de sainteté, il faut être assoiffé de l'amour de Dieu. Avoir soif n'a pas la même signification avec assoiffé. Avoir soif, quand j'ai soif, je bois et après c'est disparu. Mais être assoiffé de l'amour de Dieu, ça veut dire on a toujours soif de Dieu. Soif de sa parole, soif de l'entendre, soif de l'adorer, soif de le servir, soif de le plaire. Toujours. On est assoiffé de le servir, assoiffé de son amour. Il faut avoir un désir ardent de plaire à Dieu. Il est de la responsabilité de chacun des enfants de Dieu de vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Regardons ce qu'il a écrit dans Philippiens chapitre 1er. Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 27, Paul parle à l'église de Philippe et à l'église d'Argenteuil ce matin. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ce qui est contraire là à notre vie, c'est que nous sommes des vrais chrétiens quand nous sommes à l'église. Nous sommes des sœurs spirituelles, des frères spirituels, très dévoués pour servir Dieu quand nous sommes ici à l'église. Nous sommes sages, nous acceptons tout quand nous sommes ici à l'église. Et comment vous êtes dehors? Soit que je suis là, soit que je suis absent, je veux entendre de vous que vous avez respecté l'amour mutuel qu'il faut avoir. Ordinairement, on dit devant, c'est bien, mais derrière, c'est le mal. C'est pas comme ça la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Nous sommes le peuple acquis de Dieu, dont il peut disposer de façon définitive et sûre. Dieu peut faire tout ce qu'il veut de nous, puisque nous sommes son peuple. Il a payé très cher pour nous avoir. Il a donné son Fils unique à la croix. Quiconque croit en ce Fils unique est la vie éternelle. C'est un grand prix qu'il a payé pour nous avoir comme ses enfants. Les croyants sont des rachetés de Dieu. Parce que vous n'étiez pas en mesure de payer vos dettes. Et Dieu, il a donné son Fils unique pour payer. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 53, le verset 6. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes là ce matin, guéris, sauvés, délivrés. Nous étions esclaves, condamnés à cause de nos péchés. Et Jésus nous a libérés par son sang précieux. À la croix. Si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Par sa mort, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a écrit dans Colossiens 2, verset 14. C'est une consolation de savoir que nous appartenons à Christ pour l'éternité. Nous disons pour l'éternité, puisque celui qui est sauvé une fois pour toutes. Il y a un seul salut. Et nous savons notre sécurité éternelle en Christ, puisque c'est Dieu qui a donné l'Église à Jésus-Christ. Personne ne peut nous ravir ce salut que nous avons en Christ. Voilà pourquoi nous sommes à lui pour l'éternité. Nous n'avons plus de dettes à payer. C'est un privilège. Eh oui, c'est un privilège. Nous serions esclaves du péché, esclaves de Satan, si Jésus n'avait pas payé nos dettes. Nos privilèges en Christ sont énormes, frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu à part entière. Héritier et co-héritier de Dieu. Nous sommes une race élue. Ce n'est pas un cadeau que quelqu'un nous fait. Ce n'est pas le président X ou bien le président Y qui nous a donné ce titre par un choix. Mais c'est Dieu qui nous a élus. Paul nous exhorte ce matin à louer Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'exalter, lui rendre action de grâce pour ses bénédictions spirituelles. Je dis bien ses bénédictions spirituelles, parce que vous et moi, quand nous prions pour demander la bénédiction de Dieu, nous attendons de l'argent, nous attendons un bon emploi, nous attendons une belle voiture. Nous attendons une belle maison. Frères et sœurs, détrompez-vous, hein. Dieu nous a donné des bénédictions célestes. Des bénédictions qui ne se passent jamais. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est pas une belle voiture, un petit accident, c'est fini. Ce n'est pas une belle maison, après le feu, il n'y en a plus rien. La bénédiction que Dieu nous donne ne peut pas être détruite par les rouilles. C'est une bénédiction que rien ne peut détruire. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par et à travers Jésus-Christ. Dans tous les temps, Dieu nous accorde ses grâces, sa bonté, sa miséricorde et son pardon. Dans tous les temps. Et pour jouir des privilèges de Dieu, il est important de subir des changements. Parce que Dieu ne peut pas nous accepter tels que nous sommes ce matin. Et tels qu'ils sont. Nous avons des exemples. Abraham devient Abraham, père d'une multitude de nations, notre père de la foi, alors qu'il était un idolâtre. Dieu l'a changé pour avoir une mission pour jouir des privilèges, d'être père d'une multitude de nations. Et Dieu lui dit, toutes les nations seront bénies en toi. Aujourd'hui, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils ont reçu cette bénédiction en Christ. Saul, un persécuteur de l'Église. L'Éternel l'a changé sur la route de Damas pour devenir Paul, un envoyé de Dieu pour la prédication de l'Évangile. Et nous savons ce que Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il l'a dit avec fermeté. Il y avait Pierre, qui fut un pêcheur de poissons. Il devient pêcheur d'hommes. Et son premier message convainc 3000 personnes à accepter le salut de Dieu. Ça veut dire quand Dieu vous change, quand Dieu nous change, chacun de nous, nous ne sommes plus la même femme, le même homme que nous étions autrefois. Voilà pourquoi Paul dit à l'église de Corinthe, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous étions, nous autres, des païens, sans Christ, sans histoire, éloignés de Dieu. Maintenant, nous sommes rapprochés de Dieu par le sang de Christ et nous sommes devenus chrétiens. Attention, on n'est pas né chrétien. Personne n'est né chrétien. Mais on devient chrétien en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car seuls ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous entendons ce mot dans toute la rue, dans toutes les sectes. Hein, vous êtes mes frères. Mais non, si quelqu'un n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas mon frère, il n'est pas, elle n'est pas ma sœur. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons à ce moment le même Père, la même espérance, le même salut, la même foi. Nous pouvons vivre ensemble en tant que frères, en tant que sœurs. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas mon frère, vous n'êtes pas ma sœur. Et en tant que fils de Dieu, nous avons des responsabilités. Oui, nous avons des responsabilités puisque nous sommes sauvés pour servir. Eh oui. Notre service en tant que sacrificateur consiste en la consécration de notre vie entière à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous devons nous offrir à Dieu toutes nos vies. Notre service en tant que sacrificateur consiste en un sacrifice de louange. Nous avons à présent tous un libre accès au sanctuaire de Dieu. Là où seuls les sacrificateurs pouvaient entrer, et même au sein des saints, où uniquement le souverain sacrificateur avait le droit de pénétrer une fois l'an. Avant, quand nous avons besoin de quelque chose pour demander à Dieu, il faut passer par un souverain sacrificateur. Il faut lui donner la liste de vos requêtes. C'est lui qui va dire, voici le besoin de Jean-Pierre, voici le besoin de Marlène. Et ce sacrificateur était entré dans le temple une fois par an. Vous imaginez? Et ce n'était pas aussi facile, hein, parce qu'il fallait lui mettre un corde dans ses pieds, puisque s'il y a péché, il est déjà mort. Donc s'il y a péché, il est mort, c'est à partir de cette corde qu'il faut le sortir. Et aujourd'hui, n'importe où que nous soyons, l'Éternel, il nous attend et il nous exauce. Nous n'avons pas besoin de passer par Aldo. Nous n'avons pas besoin de passer par Jean-Pierre, par n'importe quel type de personne, parce que nous avons le même droit de citer en Jésus-Christ pour parler à notre Dieu et passer par Jésus-Christ. Nous sommes aussi des sacrificateurs pour Dieu. C'est un privilège et cette responsabilité. Jésus a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant au travers du voile qui s'est déchiré. Selon Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Nous offrons sans cesse à Dieu nos sacrifices de louange comme un parfum de bonne odeur. Dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement de la parole de Dieu et dans la prédication de l'évangile, Dieu soit loué dans tout ce que nous faisons. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, eh bien, tout soit fait pour la gloire de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est à la gloire de Dieu que nous faisons tout ça. Hein? C'est à la gloire de Dieu. La bienfaisance, la bienveillance, tout c'est pour la gloire de Dieu. La libéralité constitue aussi un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Frère Hugues en avait parlé ce matin. Nous sommes venus à l'église, mais si nous avons de l'argent, il faut donner de l'argent à Dieu pour l'entretien du temple, pour payer l'électricité, pour payer pour l'eau, pour payer pour l'entretien général de l'église, le temple de Dieu. Il ne faut pas être chiche avec Dieu. Hein? Il ne faut pas être chiche, parce que quand vous donnez, Dieu, il vous donne. Il vous donne en retour quand vous donnez. Le mal qu'il y a aujourd'hui, c'est que cette question de fraternité, cette question d'amour fraternel est restée avec des guillemets. Est-ce qu'il y a réellement la fraternité entre nous? Est-ce qu'il y a l'amour fraternel? Est-ce qu'il y a la communion fraternelle? Est-ce que nous prions réellement les uns pour les autres? Est-ce que nous supportons réellement les uns les autres? C'est la grande question. Vous savez, les murs humains sont encore dans le monde, beaucoup plus que les murs de béton. Beaucoup plus. Les murs de Berlin sont tombés, ces murs en béton, mais les murs humains sont toujours là dans le monde. Et le mal, c'est qu'il y a ces murs dans l'église. Quand un frère est votre ennemi, quand vous ne le saluez pas, quand vous ne parlez pas avec lui, c'est un mur qui vous sépare. Les murs socio-économiques dans le monde restent et demeurent. Quand à la sortie de l'église, vous faites votre direction droite, l'autre il fait la direction gauche, on cherche à ne pas se rencontrer, c'est un mur. Alors où nous sommes frères et sœurs? Elle est où cet amour? Il n'y a pas. Si vous n'aimez pas, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Si je ne vous aime pas, c'est que je n'ai pas l'amour de Dieu en moi. Parce que c'est l'amour de Dieu que nous avons en nous qui nous permet de supporter les autres, d'aimer les autres. Il s'est écrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour accepte tout, l'amour supporte tout, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour pardonne, merci. Mais nous sommes toujours à l'église, nous parlons de l'amour. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de l'amour de Dieu si nous n'avons pas de l'amour pour nos frères et sœurs, si nous n'avons pas de l'amour pour nos voisins, pour nos prochains. Frères et sœurs, chers jeunes, collégiens, lycéens, universitaire et professionnel. C'est une fierté pour chacun de nous ce matin. D'être les enfants de Dieu. Vous serez fiers si vous étiez l'enfant du président des grands pays. Mais ce matin, c'est une fierté pour nous d'être les enfants de Dieu. Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. C'est pas n'importe qui, hein. Il est instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais vous savez, il est devenu grand, mais il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous comprenez ça? Moïse était un savant, un homme patient, un homme de Dieu. Nous connaissons son histoire. Mais il avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il sait que Dieu n'a pas de comparaison. Dieu, il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute relation. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 24. Daniel avait résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Ce jeune Daniel, ce jeune hébreu. Regardons dans Daniel. Daniel, chapitre 1er. Dans Daniel, chapitre 1er, les versets 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël et de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Dans le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Un exemple pour moi et pour chacun de vous, en tant que jeune, en tant qu'adulte. Quel est votre comportement dans ce monde qui s'habille n'importe comme il veut, qui vont où ils veulent, qui se comportent comme ils veulent? Quel est votre exemple, votre modalité? Est-ce que vous faites comme Daniel? Il a résolu de ne pas se souiller. Eh oui, c'est un exemple. Réfléchis sur cette position. Daniel était d'une race noble. Il était instruit. Il avait beaucoup de sagesse. En Haïti, on dit, chaque fois que l'élève arrive à la classe des philos, il dit que Dieu n'existait pas. Parce qu'il est philosophe maintenant, comment veux-tu parler de Dieu? Mais la connaissance, c'est Dieu qui donne. Toute connaissance vient de Dieu. Toute science vient de Dieu. Donc ça veut dire, il faut toujours manifester notre fierté d'être des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes ce matin. C'est ce que nous voulons que nous soyons ce matin. Notre fierté d'être des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et nous avons, chers frères et sœurs, la même ADN en Christ, parce que nous avons la même espérance. Paul a expliqué que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Regarde ce qu'il a dit. Dans Galates chapitre 3, le verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes tous être un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes supérieur par rapport aux autres, mais la Bible dit que nous sommes un seul en Christ. Il n'y a pas de différence. Et jamais de différence. Et Paul conclut, comme nous allons le faire, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec nous tous. Que le Seigneur nous bénisse.